Got gun, Hulk left slot.
Dixie left, Key left.
Mercedes, wide chip, Ricky.
Bieber left, 75, Katie, Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead, goal line. Touchdown.
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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 454 du podcast Touchdown Actu. Alain Mathy, très heureux de vous accueillir. Victor Roulier est avec moi. Bonjour Victor. Il faut activer.
Salut Alain. Victor. Non mais oui, bah oui. Voilà, j'ai loupé mon intro. Bonjour à tous. Bonjour Alain.
C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai aussi cette petite angoisse d'oublier d'enlever le mute comme ça au début de l'émission à chaque fois. Bon, ça va bien Victor?
Écoute, ça va, ça va.
À quelques heures de Thanksgiving, tu as préparé un énorme repas, je suppose, tout ça, tout ça.
Bah, j'ai surtout 2 jours à peu près tranquille, vu qu'il n'y a aucun Américain qui va m'envoyer d'email.
Ah, ça, c'est vrai.
Bon, donc, j'en profite.
C'est vrai, profite un peu de ton repos. Jusqu'où peuvent aller les Colts? Un sommet dans la NFC, des pronos, des cotes, c'est la preview de la semaine 11.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Bon, vous nous écoutez peut-être le lendemain de Thanksgiving, mais pour ceux qui téléchargent l'émission dès le jeudi midi, nous sommes en direct ce soir à partir de 20h. Les Colts, on n'y croyait plus beaucoup. Il faut dire qu'ils ont commencé la saison avec une seule victoire pour 4 défaites. Donc forcément, on n'était pas très très chaud. Et puis, les Colts ont gagné 6 de leurs 8 derniers matchs. La semaine dernière, ils ont écrasé les Bills. Faut-il y croire? Ils sont de retour dans la course au play-off, en tout cas, puisque statistiquement, la course au play-off, elle est très très large maintenant, avec un match de plus et avec une équipe en play-off en plus depuis l'année dernière. Victor, est-ce que tu y crois à cette équipe d'Indianapolis pour aller en play-off? On va fixer l'objectif tout de suite.
Oui, j'y crois, parce que c'est vrai que tu as dit, c'est une AFC assez homogène. Et je pense qu'il y a 2 choses qui jouent dans la course au play-off. C'est la forme du moment et c'est le calendrier. Et les Colts, ils ont les deux. Ils ont un calendrier et une division plutôt abordable. Et en plus, ils ont globalement une équipe qui va mieux partout. La ligne a retrouvé le côté dominant. Jonathan Taylor, on est obligé d'en parler, c'est un phénomène absolument incroyable cette saison. Tout passe par lui. Ça fait partie de ces équipes comme les Browns, comme les Eagles, qui sont revenus à la course d'abord. Donc, c'est quand même assez marrant de voir qu'après tant d'années à dire plus de passes, plus de passes, plus de passes, finalement, il y a quand même quelques équipes qui commencent à revenir vers la course. Et puis, au niveau de la défense, je trouve que les cadres se sont vraiment réveillés. DeForest Buckner, Darius Leonard, tout le monde est là. Et en plus, les rookies comme Kwity Paye apportent beaucoup. Donc, globalement, c'est une équipe qui va mieux à tous les niveaux, qui est bien coachée, qui est en confiance. Vance, il fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire pas grand-chose quand Jonathan Taylor est aussi bon, mais en tout cas, ce qu'on lui demande de faire, il fait bien sans jouer au héros comme il avait pu le faire l'année dernière. J'ai l'impression que c'est un peu comme les Patriots, tu sais, c'est cette équipe qui va mieux toutes les semaines. Et finalement, pourquoi s'inquiéter?
C'est l'attaque au sol d'abord, et puis l'attaque au sol ensuite, et l'attaque au sol encore après. Hein, parce que là, exactement, plus les matchs avancent, plus il n'y a que ça. Jonathan Taylor, tu l'as dit, 1122 yards au sol. Il est à 5,8 yards par course en moyenne, 13 touchdowns marqués, 102 yards de moyenne par match maintenant au sol. Il a perdu qu'un seul fumble, parce que c'est bon aussi de le mentionner pour un joueur qui a autant le ballon dans les mains. J'étais en train de regarder s'il avait autant d'influence. Il a quand même capté 32 ballons aussi dans les airs, 322 yards à la réception, 2 touchdowns à la réception. Donc, ce n'est pas un Derrick Henry d'ailleurs, au sens où il est omniprésent au sol, mais il a un peu plus d'influence dans les airs. Après, on ne peut pas non plus occulter le fait qu'il y a un énorme déséquilibre et qu'il a l'air de se creuser au fil des semaines. Donc là, ils sont 9e en AFC avec 6 victoires et 5 défaites. 4e attaque au sol, mais 23e attaque aérienne. Si on regarde le classement des attaques aériennes, il n'y en a aucune. Enfin, je veux dire, derrière eux, c'est que des équipes qui ne jouent pas les playoffs. C'est-à-dire qu'ils ont la pire attaque aérienne des équipes qui sont dans la course au play-off, grosso modo. La question, c'est quand même ça. Le rôle de Carson Wentz, c'est devenu de ne pas perdre le ballon. Oui. Évidemment, ça marche bien avec quand Taylor marche, 106 yards contre Buffalo pour Vance, 180 contre les Jaguars. Quand il a lancé, la seule fois où il a lancé pour 400 yards cette saison, ils ont perdu, c'était contre les Ravens. Est-ce qu'au final, du coup, on n'est pas face à un truc où on dit, bon, bah, c'est très bien, peut-être qu'ils iront même en playoff, peut-être qu'ils passeront même un tour, mais dès qu'il faudra élever le niveau de jeu, ce sera fini, parce qu'on a bien vu que les équipes au sol, on dit c'est génial, Tennessee, etc., depuis quelques années, mais il y a toujours le match où l'attaque au sol, elle est stoppée, et où le quarterback, il est exposé, et où ça se termine.
Ben, je ne sais pas, San Francisco est allé au Super Bowl avec Jimmy Garoppolo.
Et ils ne l'ont pas gagné.
D'accord, oui, bah, d'accord, mais bon, l'objectif des codes, c'était peut-être pas de
gagner. Oui, c'est sûr, là, je vais loin.
C'est sûr, moi, je vais loin. Aujourd'hui, non.
Je suis même pas sûr que Vance soit aussi propre que Garoppolo cette année-là, tu vois, par exemple. Je pense qu'il est plus fragile.
Oui, mais qu'il soit 25e à la passe, j'ai envie de dire, on s'en fout. Il faudrait limite regarder le DVOA, enfin, les expected yards, pour voir si vraiment la passe est efficace ou pas. Mais tant que ça marche au sol. Pourquoi est-ce que tu te mettrais à passer ballon ? Enfin, alors, je veux dire, il y a un moment, moi, je trouve que tant que ça marche, continue.
Alors oui, après, je trouve que ça occulte un autre truc, c'est que leur grande force, c'est aussi les ballons volés. Et ça, ouais, c'est plus aléatoire. C'est-à-dire que le jour où ce robinet-là, il va se fermer, ça va être plus compliqué parce qu'ils ont 25 ballons volés. C'est la meilleure équipe en NFL, seulement 10 ballons perdus, 5e en NFL. Donc, ils ont un plus 15, qui est le meilleur bilan NFL sur les turnovers. Ça, c'est très bien. Je ne dis pas que c'est de la chance, mais c'est quand même des trucs qui, ça va, ça vient en NFL, des fois, ce genre de stats. Peut-être que ça va durer toute la saison. Des fois, tu as une saison comme ça où tu es en état de grâce et où il y a tout qui tourne dans ton sens. Mais si ça ne dure pas, pour moi, c'est plus ça, en fait, qui est aussi la clé. C'est-à-dire que Taylor, il tourne, il fait tourner l'attaque, etc. Mais bon, dans les faits, ce n'est pas une attaque exceptionnelle à 500 yards par match non plus. C'est juste que Taylor est la clé pour qu'ils avancent. Mais c'est le différentiel de ballon perdu volé, en fait, qui aujourd'hui les remet devant.
Oui, et puis une défense qui progresse aussi, parce que c'est vrai qu'on se focalise sur l'attaque, mais l'un va avec l'autre aussi, parce que comme l'attaque joue beaucoup au sol, elle mange beaucoup l'horloge. Du coup, la défense est assez fraîche physiquement quand elle entre sur le terrain, et ça leur permet justement de faire les plays, de faire tout ça. Mmh. Parce qu'ils n'ont pas eu à passer 12 minutes sur le terrain et ils n'arrivent plus à réfléchir et c'est compliqué, etc. etc. Et puis, malgré tout, tu vois, on disait, là, je pense que quand tu regardes leur calendrier, ils ont quand même des choses, ils ont des Texans, ils ont les Riders, les Jaguars, les Panthers. Non, peut-être pas les Panthers, non, c'est des Jaguars en week 18. Donc, ils ont quand même... Je sais pas, ils ont de quoi voir venir. Et dans une conférence vraiment homogène, je pense qu'ils vont gagner 3-4 matchs qui leur permettront d'y aller. Après, en play-off, ils feront ce qu'ils ont à faire. Si ça se trouve, ils feront une Tennessee, ils iront en finale de conférence. Et pour une première année de Carson Wentz, ça sera très bien.
Elle est vraiment bonne, cette défense. Parce que tu vois, par exemple, c'est pareil, elle est très opportuniste, tant mieux. Hein. Mais statistiquement, après, elle est un peu au milieu de tableau à peu près partout.
Oui, donc, mais
moi, j'en reviens à si ça s'arrête de tourner dans leur sens sur les turnovers.
Ça va s'arrêter parce qu'on en parle dans le podcast, déjà.
Déjà.
Ça, c'est une première chose, donc on le sait, hein, 2 défaites assurées quand on parle de vous dans le podcast. Mais non, je n'ai pas l'impression. Tu vois, ça me fait un peu la même impression que les Cowboys. Que les Cowboys, alors on en parlera, mais peut-être pas les Cowboys dernière semaine. Mais dans l'idée, l'attaque va faire suffisamment. Et puis la défense, t'encaisses des yards, t'encaisses parfois des points, mais on te demande de faire 2-3 actions pour être décisif et ça suffira.
Le calendrier, tu l'as dit, Buccaneers, Texans, Patriots, Cardinals, Raiders, Jaguars, c'est pas facile hein, quand même.
Ouais, je sais pas, les Raiders aujourd'hui, les Raiders, c'est Jaguars et les Texans, ça fait quand même pour moi 3 matchs largement abordables. Tout le monde n'aura pas 3 matchs comme ça d'ici la fin de la saison. Les Cardinals, on ne sait plus trop, ça dépendra de la santé d'un tel et un tel. Et il y a en effet les Bucks, là, cette semaine. Là, par contre, si tu prends les Bucks, c'est le genre de moment où là, tu auras une autoroute.
Mais oui,
là, ça va être difficile.
En effet, je sais plus si. Oui, je l'ai donné dans l'ordre, hein, le calendrier.
Oui.
Bon, playoff ou pas ?
Ouais, playoff. Dans la AFC, playoff.
Donc, je l'ai dit, ils sont 9e hein, au moment où on se parle.
Ils sont à un match, je crois, de la 7e place.
Ils sont à un match de la 7e place, en effet. C'est Buffalo devant, les Chargers devant, les Steelers devant, les Bengals devant. Chiefs, Patriots, Ravens. Ça va pas être facile. En tout cas, il y aurait eu plus que 6 places en playoff, je t'aurais dit non. Je pense que ça se joue à la dernière journée pour la dernière place, quoi. Je pense que... et du coup, dans cette config-là, je ne sais pas te dire si ce sera eux ou les Chargers, ou les Steelers, ou les... Ouais, c'est eux, Chargers ou Steelers, en fait, parce que Browns et Raiders, ça pique un peu du nez. Donc,
Et il n'y a pas un schéma où tu vois les Titans s'écrouler, là ?
Non, pas
du coup, ils remportent la division.
À ce moment-là, ils ont quand même un petit avantage.
Ouais.
Je sais pas quand même.
Mais après, ils se sont déjà affrontés deux fois, donc le problème, c'est que c'est plus difficile quand il n'y a pas d'affrontement direct.
Ça marche, donc playoff pour toi est très incertain pour moi, on va dire ça. L'affiche de la semaine. L'affiche de la semaine, elle est dans la conférence NFC Green Bay Packers Los Angeles Rams dimanche 22h25. C'est une drôle d'affiche parce que ce sont deux équipes qui allaient très bien il y a deux semaines, beaucoup moins maintenant. Les Ravens sont sur deux défaites de suite. Les Rams, pardon, sont sur deux défaites de suite. Les Packers ont perdu deux de leurs trois derniers matchs. Aaron Jones n'est pas là. Aaron Rodgers joue blessé au pied. Apparemment, il a une fracture du petit orteil, ce qui a l'air très douloureux. Donc, visiblement, il s'est cogné le pied dans une table basse, hein, si je comprends bien, parce que sinon, on ne sait pas ce qu'il a. Donc, laquelle de ces deux équipes est la plus inquiétante après ce qui s'est passé ces deux, trois dernières semaines ?
Ben, j'irai vers les Rams parce que je trouve qu'il y a moins d'explications logiques. C'est-à-dire que Green Bay, bon, OK, il y a les blessures. Enfin, tu joues les Chiefs avec Jordan Love. T'as des blessés, t'as tout ça, donc il y a un peu plus quand même d'explications. Les Rams sur les deux derniers matchs, alors que la défense passe à côté contre les Niners, ça arrive, hein. Même les meilleures défenses ont parfois des matchs sans, mais l'attaque, on a eu l'impression qu'elle était inoffensive. Et cette attaque, elle vit avec Robert Woods et Cooper Kupp. Robert Woods, il est absent pour la saison. Donc, le recrutement d'Odell Beckham est bienvenu, mais il va falloir qu'Odell Beckham il soit rapidement décisif. Parce que, clairement, sur ces deux matchs-là, on a vu une équipe sans imagination, un Stafford qui avait l'air au bout du rouleau. Pour le coup, j'attends beaucoup plus de voir les Rams que les Packers. Parce que les Packers, il y a des raisons qui expliquent ça et ils vont se reprendre. Je ne me fais pas trop de soucis. C'est plus ces Rams qui m'inquiètent sur le long terme.
En tout cas, c'est vrai que, ouais, comme tu dis, il y a moins d'évidence sur les raisons de la mauvaise attaque des Rams. Après, ils ont quand même toujours la quatrième attaque aérienne de la Ligue. Ils ont toujours Cooper Kupp, ils ont toujours plein d'atouts. Et du côté de Green Bay, tu le disais, c'est un peu plus évident. Par contre, on a chanté les louanges de leur défense il y a quelques semaines. Ils sont toujours cinquième sur les points encaissés, septième sur les yards, mais ils ont pris un très gros bouillon contre les Vikings. Est-ce que c'était un accident de parcours ou est-ce qu'on peut craindre la même chose face à une équipe des Rams qui est un peu dans le même genre ? Alors, je mettrais Odell Beckham loin derrière Justin Jefferson en termes de niveau actuellement. Mais on peut dire, voilà, Beckham, Cooper Kupp, y avait Thielen et Jefferson qui les ont massacrés quand même.
Oui, après, l'attaque des Vikings est quand même plus difficile à contenir parce que tu es obligé quand même de maintenir un certain nombre de joueurs dans la boîte parce que tu as Dalvin Cook qui peut être très efficace au sol. Là, finalement, c'est quand même moins... Le jeu au sol est moins une menace chez les Rams. Et puis, tu as un Cousins qui est en pleine confiance aujourd'hui. Moi, je rejoins Raphaël dans le podcast de mardi. Ça ne me choque pas du tout de mettre Cousins dans la discussion pour le MVP.
Alors, c'est Grégory qui le met dans la discussion.
Ah, c'est Grégory.
Oui, pardon. Je donne à l'un et à l'autre ce qui leur revient. Parce que...
Autant pour moi. Mais donc, tout ça pour dire que, un accident, ça peut arriver. Là, je pense que l'attaque des Rams est pour l'instant un peu plus unidimensionnelle et du coup, peut-être un peu plus facile à contenir. Donc, j'attends de voir, mais il va falloir que le pass rush soit plus efficace parce que c'est vraiment ça qui manque. À l'attaque des Packers, c'est vraiment un pass rush un peu plus incisif.
Mais donc, sur le papier, tu dis avantage défense des Packers sur le match-up, quoi.
Ouais, je dirais un peu match nul. Par contre, avantage de l'attaque des Packers. Donc, du coup, moi, je donne les Packers.
Avantage à l'attaque des Packers. Alors, j'allais te dire, il y a quand même beau duel, notamment sur les oppositions. La Jalen Ramsey Davante Adams, par exemple. Alors, moi, j'ai l'impression que ça ne décide pas le match, en fait, Jalen Ramsey Davante Adams, parce que Aaron Rodgers a une capacité à trouver d'autres cibles qui est... je ne sais pas si c'est bluffant, mais en tout cas, il l'a. Et donc, du coup, je ne m'inquiète pas, en fait, même si Jalen Ramsey fait un gros match.
Non, je ne m'inquiète pas non plus, même si pour le coup, on en parle moins, mais l'absence de Tonyan qui s'est blessé, de tight end, fait mal, parce que c'était une vraie bonne soupape de sécurité, pour le coup, pour Aaron Rodgers. Voilà, je pense qu'il y a quand même des armes, même si Adam s'est bloqué, il y a Cobb, il y a Valdez-Scantling, il y a tout ça. Donc, j'imagine personnellement une équipe des Packers qui domine, oui, malgré Ramsey, malgré Donald. Et moi, je pars sur les Packers.
Tu pars sur les Packers. Match aérien quand même, parce que les deux jeux au sol sont... Alors, c'est faiblard hein, du côté des Rams et il n'y a pas Aaron Jones du côté Packers, même si AJ Dillon est honorable.
Dillon n'est pas mauvais. Hein,
oui, non, il est bon, mais ce n'est pas la même force de frappe quand même qu'avec Aaron Jones.
Bon, de toute façon, les running backs n'ont aucune importance. C'est la ligne qui compte.
C'est exactement ce qu'on disait il y a 5 minutes. C'est exactement ce qu'on disait il y a 5 minutes avec Taylor. Tu vois.
Non, mais Jonathan Taylor, c'est comme Derrick Henry, c'est des exceptions. Non, mais en vrai, oui, c'est sûr qu'il est, il apportera moins de diversité, parce qu'Aaron Jones, c'est une arme offensive, autant un coureur qu'un receveur. Mais ça reste quand même très honorable comme backup.
Ouais. Le facteur X, du coup, c'est quoi? C'est le niveau des défenses?
Factor X, c'est la ligne défensive des Packers qui doit mettre la pression sur la ligne offensive des Rams.
Pronostic?
Packers.
Je ne sais plus. En fait, je viens de me noter un truc, mais je crois que j'ai mis le contraire dans le fichier des pronostics.
Alors, j'ai mis Rams dans le fichier des pronostics.
En fait, c'est... Moi, j'irais bien sur les Rams... Parce que j'attends une réaction, il y a des playmakers en défense, il y a la blessure d'Aaron Rodgers. Alors, on a vu que ça ne l'a pas gêné sur la fin de match, mais je pense qu'il doit souffrir le martyr, parce que s'il n'est pas vacciné, il ne doit pas prendre d'antidouleur, tu vois, il ne prend pas de médicaments dont il ne connaît pas les effets secondaires. Donc, je ne sais pas ce que lui a dit son médecin, comment il s'appelle là, le podcasteur.
Ah oui, j'ai plus de nom. Mais...
Bref, troll mis à part, je vais être sur Rams, mais c'est un match très difficile à pronostiquer, franchement.
Ouais. De toute façon, on va le dire, hein, là par exemple, sur celui-là, pour illustrer, il y a deux pronostics Packers et quatre pronostics Rams, mais cette semaine est particulièrement faite de 50-50.
Il n'y a que deux unanimités, je peux te le dire, j'ai vérifié tout à l'heure.
Il n'y a que unanimités.
On passe justement au prono. Les pronos de la semaine, justement, qui se passent plutôt... Alors, attends, comment il se passe pour Victor? Je voulais voir si j'allais flamber un peu avec Victor. Victor, elle a fait une bonne semaine la semaine dernière, hein, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, je crois qu'on est à peu près tous au même score, sauf Lucas qui s'est planté.
8 pour Lucas, en effet. 10 pour toi, Raoul et moi. 11 pour Greg et Raphaël au classement général. Ça donne 106 points pour Raphaël et moi. On est en tête. 105 Raoul, 103 Victor, 101 Grégory, 100 pour Lucas qui, du coup, en effet, se retrouve en dernière place. 64,2% de bons pronostics pour les deux leaders. Les matchs de Thanksgiving qui ont lieu donc dans quelques heures. Alors, on ne va pas s'éterniser parce que là, franchement, il y a très peu de chances que vous n'ayez pas déjà vu les matchs. Lions-Bears, c'est le match de 18h30 pour commencer avec un Andy Dalton titulaire, un Matt Nagy qui semblait sur la sellette mardi, mais qui n'est plus vraiment sur la sellette aujourd'hui. Victor, est-ce que tu es encore avec moi? Je vois que
ça s'agite en coulisses. Oui, ça s'agite en coulisses, mais je suis là. Bah, comment ne pas parler d'un match entre Andy Dalton et Jared Goff, hein? Je veux dire, il y a un moment... Il faudra quand même que la NFL se remette en cause et arrête de mettre les Lions à domicile à Thanksgiving parce que ça devient insupportable.
En fait, j'ai lu un article ce matin qui disait que quoi qu'il arrive, quoi qu'ils mettent, en fait, le public est captif le jour de Thanksgiving. Ils font le match pourrave en fait, de l'an dernier, Lions-Texans avait fait la quatrième meilleure audience de la saison régulière. Et donc, en fait, ils s'en foutent. Ils ne veulent pas gâcher une grosse affiche qui permettrait d'attirer des gens sur un spot où il n'y a pas d'habitude des téléspectateurs plutôt que de la mettre là où ils sont assurés d'avoir des téléspectateurs. Ce qui, visiblement, explique qu'on soit obligé de bouffer cette bouillie footballistique tous les ans. Donc,
plus
Lions...
ce côté histoire... Lions et Cowboys, Thanksgiving, tout ça.
Ouais, l'histoire, on se torche avec. Quand on rajoute des matchs de saison régulière et de playoffs, on a moins de problèmes.
Certes.
Lions-Bears, donc juste le prono, allez.
Bah, Lions, parce que je me dis qu'il faudra bien qu'ils en gagnent une.
Il ose. Moi, je vais rester sur les Bears parce que Matt Nagy va peut-être essayer de sauver son poste. Non, parce qu'en fait, si, c'est ça. Andy, je vais le dire parce qu'on ne le dit pas souvent. Andy Dalton est le meilleur quarterback de ce match. Voilà. Donc je mise sur le meilleur quarterback. Les Cowboys contre les Raiders, Amari Cooper toujours absent, CeeDee Lamb sur le retour, a priori ça va se jouer vraiment au finish pour qu'il soit sorti du protocole post-commotion. Je vais dire Dallas parce que c'est quand même plus complet que les Raiders qui piquent du nez,
mais deux équipes qui vont pas bien,
mais ouais, pas bien physiquement ou ouais.
Physiquement et même dans la performance globale. Donc,
après, Dallas a des capacités de rebond quand même.
Oui, moi en fait, je vais miser Dallas, mais plus parce que le match des Riders, j'étais dessus pour l'équipe, pour TDA. Ce week-end, et vraiment, je les ai trouvés sans imagination. Tu as vraiment l'impression qu'il y a un truc qui s'est cassé. Le départ de Ruggs, le départ des coachs, il y a un moment... Le côté un peu, allez, on se réunit tous et on joue ensemble, bah, c'est un peu passé. Et là, ils sont sans imagination et le jeu au sol n'apporte plus rien. Et du coup, ouais, je mets les Cowboys quand même.
Les Saints contre les Bills. Les Saints, donc sans Alvin Kamara, sans Teron Armstead, avec un Mark Ingram incertain, avec Tyson Hill qui a un gros contrat. Donc, plus il joue, plus il gagne. Peut-être qu'il essaiera de jouer plus. Donc, en tout cas. Tyson Hill, c'est un mec. C'est une carrière incroyable. Hein. Il y aura des articles sur lui dans 10-15 ans parce que.
Il a des vidéos compromettantes. Ouais, hein.
On n'a pas vu la fin, mais là, j'ai rarement vu un mec qui prend autant d'argent garanti en faisant si peu. Mais bon, pourquoi pas.
Non, c'est clair.
Par contre, que les Saints pleurent pas de ne pas avoir d'argent dans la masse salariale. Hein, parce que là, tu as le droit de rien dire, en fait, quand tu donnes
ouais, des après, ils ont des contrats voidable à souhait.
Ouais, non, mais très bien, mais ouais, tu ne dois pas mettre, je sais pas combien de millions garantis.
22
sur un
millions
mec qui
garantis.
Est là pour,
ouais, ouais, non, c'est
pas rigoler, là. Après, tu dis pas, oui, mais on n'a pas de tel mec, on n'a pas de receveur numéro 2. Non. Ouais. Bref, ouais, non, les Bills, parce qu'ils sont complets.
Oui, voilà. C'est ça. Les Saints, il y a trop de blessures. Trop.
On passe au dimanche 28 novembre, 19h, Cincinnati Bengals, Pittsburgh Steelers. Joli choc de la AFC Nord, division très serrée. TJ Watt semble sur le retour. Ça semble revenir du côté des blessés de Pittsburgh. Les Bengals ont gagné le premier match 24-10. Celui-là, moi, j'avais du mal parce qu'il y a toujours le côté petit frère, grand frère. Il y a la première défaite en plus. L'attaque de Pittsburgh qui a remarqué des points la semaine dernière un petit peu. Je suis vraiment, vraiment pas sûr que je vais pas regretter de pas avoir pris les Steelers. Je vais prendre les Bengals, mais...
Oui, je prends les Bengals aussi, et c'est un peu comme toi, j'ai du mal à imaginer les Bengals battre deux fois les Steelers dans
exactement.
Une même saison, mais pourquoi pas. J'ai trouvé que le match, par contre, contre les Riders des Bengals, c'était vraiment intéressant, parce qu'à l'inverse, eux, ils ont vraiment réussi à mettre en place un jeu au sol, et du coup, ça rend cette attaque un peu plus diversifiée. Et en plus, j'ai vraiment l'impression que la défense s'est remobilisée après des semaines un peu compliquées. Mmh. Donc, j'ai du mal à croire à Pittsburgh parce qu'ils ont fait un bon match offensif. OK, peut-être qu'ils vont en faire un deuxième d'affilée. Mais vu l'âge de Big Ben et ses performances un peu en dents de scie, je pars du principe que les Bengals sont un choix plus sûr.
Je vais prendre donc les Bengals également. Texans Jets, c'est évidemment. Alors celui-là, il est tellement pourrave, il est destiné. C'est écrit que c'est moi qui vais faire ce
résumé.
C'est
pour toi. C'est pour toi.
Texans Jets. Bon, le retour de Zach Wilson. Pour le reste, c'est quand même assez un match abominable. Donc je vais sur les Texans parce que c'est plus sérieux.
Moi, je vais sur les Texans parce qu'ils ont prouvé que à défaut d'avoir une attaque, ils ont une défense et que ça suffit parfois à gagner des matchs.
Colts Buccaneers, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est une très belle affiche. C'est le premier test pour les Colts. Les Buccaneers qui ont la meilleure défense contre la course de la Ligue, les Colts qui ont la meilleure attaque au sol de la Ligue. Je ne veux pas dire une bêtise, est-ce qu'ils sont numéro 1, en tout cas une des meilleures. Donc là, voilà, c'est par là que ça se passe, c'est le match-up. S'il faut suivre Tom Brady, a priori, Carson Wentz n'est pas équipé.
Non, c'est sûr. Donc, c'est sûr, le contrôle de l'horloge par les Colts sera fondamental. Après, c'est vrai qu'ils se retrouvent face à une défense des Buccaneers qui va beaucoup mieux, pour le coup, avec un Devin White qui semble enfin un peu plus au niveau des playoffs de l'année dernière. Donc, si les Buccaneers arrivent à les limiter au sol, c'est toujours le même problème. Après, est-ce que Vance, en effet, peut suivre Brady? Non, je ne pense pas. Je pense que les Buccaneers, l'attaque des Buccaneers va toujours bien. En plus, elle commence à voir revenir les blessés. Je pense qu'à un moment, il faudra regarder quand même, Brady, le nombre d'interceptions qui sont dues à des ballons relâchés ou à des Hail Mary cette année. Ses stats seraient bien meilleurs si on enlevait toutes les erreurs des autres. Donc, bon, je pense que Tampa Bay est un choix plus sûr.
Allez, Tampa. Les Jaguars contre les Falcons. Alors, je vais dire, j'ai zéro note sur ce match. Voilà. Je me mets des notes, hein, pour tous les matchs et tout, mais là, je ne sais pas quoi dire.
Ah bah, tu sais, moi, j'ai une note. J'ai mis LOL.
Ouais, voilà. J'ai...
Qu'est-ce que tu veux dire?
J'ai rien. Ça, c'est sûrement le deuxième match que j'aurai s'il manque du monde dimanche. C'est sûrement un truc qui va aspirer encore un peu plus mon énergie vitale. Je sais pas. Je sais pas quoi dire sur ce putain de match. Ça va être affreux. Les Jaguars n'ont pas d'attaque. Les Falcons ont un receveur. Moi, je l'ai déjà dit mardi. Matt Ryan mérite mieux. Je pense qu'ils vont gagner quand même. Donc, je vais dire les Falcons. Hein.
Mais moi aussi, et on est les deux seuls à miser les Falcons, bizarrement.
Oui,
mais...
il y a des pronos un peu étranges dans l'équipe, je trouve.
On est minoritaire, mais moi
ouais,
aussi, je vais sur les Falcons.
Les Dolphins, il y a une autre équipe, je ne sais plus laquelle j'ai vue. Je me suis dit, mais pourquoi ils font encore confiance à ces gens-là? Ouais, non, mais je crois que c'était ça. Je crois que c'était pour le Jaguars. Ouais. Je me disais, ils sont nombreux à faire confiance aux Jaguars. Dolphins, Panthers, tu as Tagovailoa contre la défense des Panthers, qui est la meilleure contre la passe, et qui en plus a 30 sacs cette année, troisième en NFL. Ça sent pas très très bon pour Tua Tagovailoa, tout ça, je trouve.
C'est pas la meilleure opportunité de reprendre la confiance. Même si, pour le coup, Miami fait partie des équipes qui vont mieux aussi. Hein. Offensivement, ils ont peut-être joué le match le plus cohérent de leur saison. Ils viennent de récupérer Philippe Lindsay en plus pour le jeu de course, qui fera pas de mal. Le pass rush s'est réveillé. Et le problème, c'est que Carolina, moi j'ai l'impression que la défense, à force d'être sur le terrain 70 minutes par match, il commence à fatiguer. Hein, donc, je pense que les Dolphins vont passer. Tu vois.
Ah, moi, je pense qu'ils font monter McCaffrey en puissance au fur et à mesure des semaines parce qu'ils ont peur de le griller vu qu'il est en porcelaine.
Ouais.
Mais du coup, là, ça peut commencer à monter en puissance. Ils ont collé 34 points aux Cardinals, ils en ont collé 21 à Washington. Je suis pas, tu vois, je pense que s'ils en mettent 25 à Miami, c'est fini. Hein, donc,
Ouais, ils ont fait leur plus mauvais match défensif face à Washington aussi. Hein, donc, c'est pour ça, je te dis attention. J'ai l'impression que les Panthers fatiguent.
Tu as plus peur d'affronter qui aujourd'hui, Taylor Heinicke et Terry McLaurin ou tu as que Tagovailoa et Jalen Waddle?
J'ai plus peur d'affronter Byron Jones et Xavier Howard. Voilà.
Ouais. Bon, bonne fin. Donc, Dolphins pour toi, Panthers pour moi. Patriots, Titans. Les Titans qui souffrent énormément en attaque et ils jouent contre la défense des Patriots.
Oui, mais les Titans, ils ont toutes les excuses du monde. Enfin, il y a un moment,
quand on
commence à trop tirer.
Il faut bien qu'ils le jouent.
Enfin, je veux dire, Bud Dupree, Julio Jones, Derrick Henry, Edgy Brown, enfin, tous les bons joueurs sont blessés. Donc, il y a un moment, face à une équipe en mode rouleau compresseur comme les Patriots. Moi, alors, pour le coup, je pense que ça peut finir en démonstration.
Ah ouais, parce qu'ils ne vont pas marquer beaucoup de points. Hein, s'ils sont, sauf réveil incroyable de Tannehill et Edgy Brown. Mais Edgy Brown, en plus, est encore plus ou moins blessé. Il n'est pas absent, mais il traîne un bobo. Donc, moi, j'ai du mal à aller voir faire grand-chose. Donc Patriots pour moi également. Giants-Eagles, une petite rivalité que tu aimes bien. Ça va quand même beaucoup mieux. Il y a une identité. En plus, là, je veux dire, on est dans l'opposition de style. C'est-à-dire que Philadelphie a une identité. Les Giants en cherchent une depuis 3 ans. Donc, je ne vois pas pourquoi. En plus, ça va être une belle ironie. Vous allez leur coller 150 ou 200 yards au sol alors que c'est eux qui ont Saquon Barkley. Ça va être drôle.
Et c'est le match de célébration du retirage de maillot de Michael Strahan, je crois.
En plus.
Non, alors, bon, j'ai misé Giants, hein, évidemment, hein, parce que j'utilise une technique qui est dite à Grégory Richard. Oui, on essaye de ne pas porter à poids. Eh, écoute, ça m'a réussi cette dernière semaine. Depuis que j'ai décidé d'adopter la technique Grégory, ça marche. Continue.
Ça marche quand ça marche. Mais...
Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, mine de rien, Giants, moi, je trouve, vont mieux, même si, OK, le match face aux Buccaneers, c'était triste, mais juste avant, ils enchaînent quand même deux victoires. La défense s'est remobilisée. Et en fait, ce qui m'intéresse de voir, c'est des équipes comme les Eagles, qui sont un peu sur le fil du rasoir, le jour où la course ne marche pas, les capacités de justement développer un jeu dans les airs avec Dallas Goedert, avec Devonta Smith, etc. Donc, je ne dis pas peut-être que ça n'arrivera pas et que le jeu de course va réussir, mais je pense que la clé de ce match, ça va être les pertes de balles. On est normalement, les Eagles ne perdent pas de ballon cette année. Ils sont deuxième, je crois, de la ligue. Mmh. Les Giants ont traditionnellement tendance à en perdre, même si Daniel Jones, ça va mieux cette saison. Je pense vraiment que la bataille des turnovers va être fondamentale. Et l'attaque des Giants va peut-être être libérée parce que Jason Garrett a été viré.
Après, alors moi, je vais te dire, je pense que ta technique va marcher. Pourquoi ? Parce que les deux victoires que tu évoques des Giants, c'est contre les Raiders qui sont encore en stress post-traumatique au moment où ils les jouent et contre les Panthers qui sont encore en Sam Darnold au moment où ils les jouent. Quoi. Tu vois, dès qu'ils jouent des mecs qui sont à peu près éveillés et
NFC Est. Voilà. Il n'y a pas de logique en NFC Est.
Voilà, parce que derrière, ils ont pris une pilule contre les Rams, ils en ont pris une autre contre les Cowboys, ils ont perdu contre les Chiefs au moment où Patrick Mahomes revenait à peine. Tu vois, il était encore, il n'était pas somnambule, mais il se réveillait tu vois, tout doucement, il était encore en pyjama et tout. Et bon, ils ont quand même battu. Hein. Donc, moi, je dirais quand même les Eagles. Y a quand même... Et après, tu l'as dit, hein, sur la NFC Est, évidemment, ça peut faire 40-3 pour les Giants, hein, ça n'étonnera personne. Mais sur la dynamique. Philadelphie ressemble quand même plus à une équipe en ce moment, donc je vais dire les Eagles. Broncos Chargers, je me suis imaginé un truc, tu sais, en préparant ce match. Imagine, tu mets Justin Herbert aux Broncos.
Ils sont en playoff.
La folie, quoi. La folie. Il a déjà des bons receveurs hein, aux Chargers, mais bon, Courtland Sutton, Tim Patrick, tout ça, plus la défense.
Jerry Jeudy, Noah Fant, Albert O.
Ça aurait de la gueule. Bon, en l'occurrence, les Broncos n'ont pas Justin Herbert. Ils ont perdu 5 de leurs 7 derniers matchs. Ça se joue à Denver. C'est de la rivalité de division, donc tout est possible, hein, on le dit à chaque fois. Mais bon, les Chargers sont quand même assez favoris de ce match, surtout après avoir gagné un peu un match fou là, contre les Steelers pour se relancer.
Oui, c'est typiquement le genre de match que les Chargers auraient perdu, normalement. Enfin, en tout cas, sous Anthony Lynn. Mmh. Et là, maintenant, ils les gagnent. Donc, bizarrement, ça fait la différence entre une équipe moyenne et une bonne équipe. Les Broncos, bon, ils ont eu ce moment d'exploit face aux Cowboys, mais c'est quand même vite retombé face aux Eagles. Non, moi, je pense que les Chargers ont trop d'armes. Et d'ailleurs, c'est une de nos deux unanimités avec les Cowboys.
C'est vrai. Ouais, c'est un des deux. Les Packers contre les Rams, on l'a dit dans l'affiche de la semaine, c'était les Packers pour toi, les Rams pour moi. Les 49ers contre les Vikings. Celui-là, on l'a vaguement effleuré dans l'émission de mardi parce que c'est vraiment le truc même de l'impronosticable. Quoi. C'est-à-dire que les Vikings sont super bien, sortent d'un super match. Les 49ers sont aussi sur une bonne dynamique. Typiquement, c'est celui où les Vikings peuvent retomber. Enfin, il y a une de ces deux équipes qui va retomber et qui va décevoir. Pour moi,
t'as remarqué que toutes les semaines, quand on parle du match des Vikings, on dit « il peut tout se passer ». J'ai l'impression que le vrai problème, c'est les Vikings. C'est que
bien sûr.
Les Vikings, traditionnellement, depuis 20 ans, ils nous ont habitués à gagner des matchs qu'ils doivent perdre et à perdre des matchs qu'ils doivent gagner. Donc,
Ouais, mais c'est aussi le match potentiel tu vois, de Garoppolo à 3 interceptions. Quoi. Pour relancer le débat, parce qu'il se dit « ça fait 3 semaines qu'on ne m'a pas parlé de Trey Lance ».
Ouais, je sais pas, moi j'ai tendance à... J'ai mis les Niners, mais honnêtement, j'ai hésité jusqu'au dernier moment, c'est 50-50.
Ah ouais.
C'est deux équipes qui vont mieux, ça on peut le dire. Donc théoriquement, ça va être un match de bonne facture. Après, est-ce que les Vikings vont réussir à défendre le jeu au sol des Niners, sachant qu'il y a quand même des blessés, en plus il y a Everson Griffin, dont à mon avis, sera pas sur le terrain dimanche, hein, oui. vu ce qui vient de se passer. Donc là, il commence vraiment à accumuler un peu les blessures. Pour l'instant, la défense tient, mais jusqu'à quand ? Et je vois bien le match à 250 yards au sol des Niners.
Moi, je vois Niners parce que si je dois parier sur une équipe qui retombe, c'est d'abord les Vikings. Donc je vais aller sur les Niners aussi. Le match dans la nuit de dimanche à lundi, ce sera Ravens Browns. Là encore de la rivalité de division. Lamar Jackson devrait être de retour. Hein, il est plus malade, il s'entraîne. L'attaque de Cleveland pioche beaucoup, mais Nick Chubb va faire du bien. C'est un match équilibré sur le papier quand même.
Oui. Et du coup, j'ai été étonné de voir que je suis le seul à pronostiquer des hommes en orange.
C'est vrai.
C'est un match équilibré, c'est un match de division. Ça va beaucoup jouer au sol. Ça ne va pas forcément être très beau. Mais je trouve qu'en fait, à trop se focaliser sur les problèmes de l'attaque des Browns, et d'ailleurs, en effet, le retour de Nick Chubb va en régler certains, on ne parle pas assez à quel point la défense des Browns est bonne. Parce que si aujourd'hui, ils ont gagné autant de matchs, c'est parce qu'ils ont gagné des matchs super moches à base de 17-13 et qu'ils ont limité, par exemple, je me souviens, les Vikings à moins de 20 points. Ils ont... Donc, ils ont quand même une équipe qui, mine de rien, gagne moche, mais gagne. Mmh. Et du côté des Ravens, j'ai l'impression que cette année, c'est quand même… ils sont à deux doigts de perdre contre Détroit, ils perdent contre Dolphins. C'est très compliqué. C'est semaine après semaine. Donc là, je mise à un moment, il faut prendre des risques. Je mise sur une semaine un peu sans pour essayer de vous reprendre un point.
Donc, les Browns pour toi, les Ravens pour tous les autres. Le dernier match, Washington-Seattle, ce sera dans la nuit de dimanche, de lundi à mardi, pardon, à 2h15. Washington a plus de victoires, ce qui est quand même toujours assez dur à encaisser pour moi au niveau de Seattle. Il y a une ambiance de fin du monde à Seattle. S'ils perdent là, je ne sais pas dans quel état on récupère Pete Carroll. Après
Carroll,
ce match.
Il a dit qu'il ne savait plus quoi faire.
Oui, ce n'est pas tout à fait rassurant non plus. Donc, je ne sais pas trop. Moi, je vais aller sur Seattle à l'orgueil, mais il y a une bonne défense en face. Il y a Terry McLaurin, il y a Tyler Heinicke. Il n'est pas incroyable, mais il a peur de rien.
Je vais sur cadeau, Washington. Hein. Ouais. Pour le coup. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui s'est cassé à Seattle. Encore plus qu'il y a une semaine quand on faisait le podcast. Je ne sais plus qui disait mardi, puis que Carole a vieilli d'un coup. Ben, c'est un peu vrai. On a l'impression que vraiment, c'est la fin de cycle. Quoi. Et ouais. À l'inverse, Washington, mine de rien, ça grappille. Ça combat contre les Buccaneers, ça combat contre les Panthers, et puis ça gagne des matchs, et puis ça commence à devenir cohérent. Alors, ça ne sera jamais extraordinaire, soit une équipe, mais c'est cohérent. La défense va mieux malgré l'absence de Chase Young. Tout va un peu mieux et je pense que ça sera suffisant pour battre une équipe des Seahawks, ce qui est perdu.
Ouais, c'est vrai qu'il y a, comme tu dis, cette ambiance un peu fin du monde. Je peux le voir, hein, je peux voir les deux, franchement. C'est un peu pour moi le prono du dernier espoir. Tu vois, je me dis, s'ils doivent réagir, c'est maintenant. Ils vont battre cette équipe en prime time parce qu'ils doivent le faire et qu'ils doivent montrer qu'ils ne sont pas enterrés, qu'ils ne sont pas morts et tout. Après, si ça ne passe pas là…
D'ailleurs, au niveau de la rédaction, c'est trois votes pour chaque équipe. Ça va être incroyable cette semaine parce qu'on a souvent les mêmes résultats, mais alors là, cette semaine, ça peut partir.
Mais tu sens le truc où en fait, ça va se croiser, tu vois. Au final, ça va faire quasiment match nul parce qu'on aura tous eu des pronos différents, mais on va finir avec le même score. Enfin, ça va être...
Je sais pas, Grégory, il est chaud là. Il est un peu, je vois, limite avec son sabre tout seul contre tout le monde en train de dire « Vous allez voir !»
J'ai vu qu'il y a des cotes un peu… des pronos un peu osés. Je fais un lapsus, pourquoi ? Parce qu'on passe aux cotes de la semaine. Les cotes de la semaine. Victor, est-ce que tu as repéré des choses ? Il y a des trucs, hein, c'est des matchs incertains, donc il y a pas mal de cotes hautes en fait. Hein, là-dedans, tu vois, tu parlais des Jaguars, ils sont à 2. Les Dolphins, ils sont à 1,99 contre les Panthers. Les Titans sont ultra outsiders hein, sur les Patriots. Les Titans sont à 3,22 alors qu'ils ont le meilleur bilan. Bon, c'est vrai qu'on l'a dit, il y a peu de choses. Est-ce qu'il y a une cote qui t'ambiance déjà d'entrée là que tu vois ?
Mais Dolphins à 1,99. Moi, j'y crois beaucoup aux Dolphins.
Ah ouais ?
Ah ouais.
Ok. Bon, alors, on vous prévient, c'est un combiné osé. Hein, parce que moi, dès qu'il y a les Dolphins, c'est un combiné osé pour moi. Mais pourquoi pas ? Moi, j'irais plus, tu vois, à la limite, dans un match incertain sur les Vikings à 2,29.
Ouais.
Vrai match pile ou face.
Et après, c'est moi qui suis osé. Ouais. Oui, non, vas-y.
Non, je sais pas.
Hein. Bah, tu peux aussi aller sur les Browns à 2,40.
Hein. Ouais, mais je crois moins en Cleveland, tu vois, personnellement. Ouais, sinon, Packers à 1,87. Hein. Si tu croyais aux Packers.
Oui, pour le coup, Packers à 1,87, c'est bien.
Allez, Packers 1,87 et Chargers 1,62, sinon.
Allez.
Encore une fois, hein, y a pas mal de cotes comme ça au-dessus des 1,50 pour des équipes qui sont plutôt favorites parce que beaucoup, beaucoup de rencontres incertaines. Dolphins à 1,99, Packers à 1,87, Chargers à 1,62. Ça fait un combiné 5 euros misé, 30,14 € de gains potentiels. Alors du coup, ça ne fait pas des YOLO énormes parce que du coup, elles sont plutôt équilibrées les cotes. Ça ne fait pas d'énormes outsiders. On peut rajouter les Browns à 2,40 dont tu parlais. Moi, je rajouterais bien donc les Vikings à 2,29.
Et les Steelers, hein. Parce ouais, que même les si Steelers. Moi j'ai misé Bengals, 2,55 pour les Steelers, c'est beaucoup. Quoi.
Et les Steelers à 2,55, t'as bien raison. Écoute, au final, je trouve que le YOLO n'est pas si YOLO que ça.
Il n'est pas garanti quand même. Hein.
Non, il est loin d'être garanti. Hein. C'est un YOLO, évidemment, joué avec précaution. Hein.
Mais il y a un monde où ça passe. Quoi.
Mais il y a un monde où ça peut exister. Dolphins bat Panthers 1,99, Packers bat Rams 1,87, Chargers bat les Chargers ou les Broncos 1,62. Les Browns qui battent les Ravens de 40, les Vikings qui battent les 49ers de 29 et les Steelers qui battent les Bengals de 55. Ça me semble pas… on en a fait des bien pires. La mise, 5 euros, 453,74 euros de gains potentiels. Donc, ça fait un peu plus de 900 euros si vous mettez 10 euros. Encore une fois, à jouer avec prudence, c'est un YOLO, mais…
Et rajouter évidemment les Giants à 2,36 pour bien les jinxer.
Ouais, voilà, pour tout perdre. Si tu rajoutes les Giants avec une équipe de plus pour 5 euros misés, t'es déjà à 1096 euros. Hein, donc,
ouais. Mais tu vois, je te fais passer à barre des 1000 euros.
C'est ça. Là, on est sur du très beau. Et je vous rappelle évidemment que si vous gagnez d'énormes sommes sur vos paris, il y a un petit lien en bas de la colonne de droite du site pour vos investissements locatifs ou de l'achat de neuf. Donc, n'hésitez pas. C'est un nouveau partenariat qu'on a. Si on arrive à vendre un appartement dans l'année, déjà, nous, on est contents. Je vais vous dire, là, c'est du partenariat inédit. Allez. Merci beaucoup, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 454 du podcast Jean Actu. Merci de nous écouter. Pour nous suivre, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @JeanActu, Victor @VictorRoulier sur Twitter @AlainMattei, pour moi-même toute l'actu de la NFL sur TDActu.com. Merci beaucoup Victor.
Merci à toi.
On se retrouve dès 20h si vous nous suivez en direct pour Thanksgiving, puis évidemment samedi podcast draft, dimanche 18h fauteuil. Ciao ciao.
Salut.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.